Donc bienvenue à chacune et chacun pour cette soirée. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, mais d'abord je voudrais remercier infiniment Laurent, dont vous connaissez peut-être un peu cet homme. C'est un écrivain, un pasteur, un théologien. Alors moi c'est vrai que c'est probablement l'auteur que je recommande le plus, parce que le protestantisme, la foi insoumise qu'il a commis avec Raphaël Picon, à mon avis c'est un des meilleurs livres pour présenter le protestantisme. Mais c'est vrai que l'écriture de Laurent est beaucoup plus vaste que ce petit livre. Alors grand merci à Madame Catherine Bergeret-Amsalek, qui est assise à côté de moi. Donc vous êtes psychanalyste, membre de la société de psychanalyse freudienne, donc il y a comme des écoles aussi dans la psychanalyse, comme dans le christianisme, dans les religions bien sûr. Vous avez beaucoup publié, mais plus particulièrement pour notre sujet d'aujourd'hui, La vie à l'épreuve du temps, chez Desclée de Brouwer. Et vous travaillez sur j'ai l'impression, toute votre œuvre, ça tourne autour des crises existentielles qui jalonnent la vie. Donc la naissance, l'adolescence, la maternité, la ménopause, le vieillissement, mais encore la mort. Et donc votre parole, elle renouvelle le sujet, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Elle nous soigne comme sujet aussi, quand on lit vos livres. Donc c'est pas simplement de l'érudition, c'est aussi, peut-être aussi vos séminaires, qui sont un peu dans cette optique-là, que vous organisez régulièrement, vous le disiez, tous les deux ans. Et donc, merci de venir dialoguer avec Laurent Gagnebin. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant d'inviter une psychanalyste, et je trouve que ça va bien avec ton livre, Laurent, c'est-à-dire à l'intersection de la théorie et de la pratique, finalement. Alors, tu aurais pu faire un livre de théologie pure, ou de philosophie, c'est tout à fait dans tes cordes, un traité, peut-être, sur l'approche de cette question du vieillissement et de la mort dans la littérature, ou bien dans le Guernica de Picasso, je ne sais pas. Mais dans ce livre, finalement, il y a de la théologie, il y a des pensées qui sont glanées dans des œuvres littéraires, mais finalement, il s'agit plus d'une théologie, non pas pratique, mais finalement expérimentale, j'allais dire. Et je trouve que ça te correspond bien, c'est-à-dire que, finalement, comme le dit Jésus, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, n'est pas fait pour la théorie, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Et bien la théologie, c'est la même chose, finalement. Une théologie est faite pour l'humain, faite pour l'homme. Et on ne peut pas tricher, finalement, en théologie, quand on la met à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la vie, à l'épreuve de ce qu'on ressent, de nos... Voilà, et en particulier avec les bornes de l'expérience. Souvent, la science, c'est comme ça, c'est aux bornes que s'éprouvent les modèles. Eh bien, une bonne théologie, finalement, ça s'éprouve peut-être particulièrement dans les bornes, dans les crises existentielles, comme dans la recherche de Madame Bergeret-Amsalek. Et là, on voit, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a plus de prêchi-prêcha quand on est à l'épreuve de l'expérience, comme en science, eh bien, quand on est à l'épreuve du modèle de l'expérimentation, de l'expérience, on peut plus tricher. Alors, c'est à l'épreuve de la réalité. Donc, évidemment, il faut de la théorie, comme en science. Donc, il faut de la philo, de la théologie, il faut des mathématiques, il faut de la physique théorique. Mais finalement, ces théories, elles s'éprouvent à l'expérience, et même la théologie, finalement. Et donc, il faut du courage pour rencontrer ta théologie et l'expérience, surtout sur une question aussi profonde. Donc peut-être c'est le premier courage de ton livre, effectivement, c'est d'avoir le courage là de faire de la théologie expérimentale, peut-être, si je peux oser ce terme. Et finalement, peu le font, et ça c'est bien, tu le fais donc sans tricher, parce qu'on peut pas tricher. Puis le deuxième courage, peut-être, c'est d'exposer ainsi ta théologie, et puis tu as, je dirais, quelque chose de très intime, finalement, qui touche au ressenti par rapport à l'existence même. Et ça, je sais qu'il en faut du courage, parce que finalement, dans nos petits bulletins de la paroisse, on en fait tous les trimestres. Vous voyez, chaque fois, on a un dossier. Et le dossier, là, dans les 10 dernières années, en tout cas, donc il y a 40 bulletins, il y a un seul dossier où on a reçu, 1000 mails d'injures, ou de courriers d'injures, j'exagère un peu en disant 1000, mais enfin, c'est le dossier où il y avait un article sur le vieillissement, un article... qui s'appelle, je pense, Vieillesse et insoumission, quelque chose comme ça. Et l'article est très bien fait, en plus. Et en plus, il parle au jeu comme toi. Donc, on peut pas. On n'est pas forcément. Voilà, c'est l'expérience du bonhomme qui a écrit, très, très bon d'ailleurs, qui a écrit cet article. Mais du coup, c'est vrai que ça touche tellement à notre intime que les gens sont très touchés. Et finalement, on peut avoir des réactions peut-être violentes. Donc, j'espère que ça ne sera pas le cas ce soir. Peut-être que vous-même aussi, c'est votre expérience. Non, quand on touche à des choses si intimes que ces crises existentielles, il y a des gens qui peuvent être blessés, comme si on leur faisait la leçon, il faut vivre ça. Ben non, c'est écrit au jeu. Donc, merci de ce double courage, Laurent. Et ton livre, effectivement, nous fait du bien, je trouve. Et quand on le lit, eh bien, il fait aimer la vie, en fait. Et ça, aimer la vie, et même peut-être aussi aimer la mort, j'allais dire. Donc, vraiment, oui, c'est un beau livre, et on en est très reconnaissant. Donc, Patrick Van Dieren, qui a édité ce livre, eh bien, on est reconnaissant, voilà, que tu nous aies fait ce bel objet. Donc, merci, Patrick. Passer l'outil, peut-être.
On passe le flambeau, mais il n'est pas très flamboyant.
Merci Marc. C'est toujours les éditeurs, ça ne devrait jamais parler, mais bon. Et en plus, Marc a très bien parlé du livre, donc il m'a absolument coupé le sifflet. Il a dit tout ce que je voulais dire, merci Marc. Ce que je voulais surtout, c'était remercier l'oratoire de nous accueillir. Marc Pernaud et James Woody qui ont été à l'initiative de cette rencontre, le secrétariat qui a tout organisé, en particulier les deux marraines qui m'ont accompagné, qui sont principalement Isabella Pia et Francine Braunstein, et puis last but not least Catherine Bergeret, parce que je pense que le dialogue entre les deux peut être très riche, et quand Laurent m'a parlé du choix de son interlocutrice, je trouvais que c'était une excellente idée. Juste un mot sur la naissance de ce livre. C'est une conversation entre Laurent et moi, nous nous connaissons depuis 20 ans, je crois, presque. Et un jour, dans une conversation, il m'a dit « j'ai peur de la mort ». Je lui ai dit « écoute, tu m'écris un petit livre là-dessus et on le publie ». Il a fallu plus de 10 ans. Je l'ai tanné, le sujet lui faisait peur, l'équilibre que ça pouvait prendre, qu'est-ce qu'il fallait en faire, est-ce qu'il fallait en faire un traité, est-ce qu'il fallait en faire... Il a finalement choisi cette forme très petite. Ceux qui connaissent bien Laurent ne s'étonneront pas que c'est en trois parties. Non, c'est quand même une habitude gounelienne que tu partages. Mais ce qui moi, m'a touché beaucoup, et finalement, mon travail d'éditeur a été extrêmement facile, parce qu'il n'y a eu quasiment rien à retoucher. Et ce qui est... je trouve le plus extraordinaire, et Marc l'a beaucoup plus développé, donc je m'arrêterai là, c'est le passage dans les deux premiers chapitres qui sont la peur de vieillir et j'ai peur de vieillir, la peur de la mort et j'ai peur de la mort. Ce passage du théorique à une expérience que tu nous confies avec une grande confiance que tu fais au lecteur et beaucoup de pudeur, mais beaucoup de questions qui en ressortent. Et je te remercie beaucoup.
Alors, nous nous sommes entendus avec Catherine Bergeret Amselec pour que je parle avant elle. Nous nous sommes vus longuement, alors la préséance aurait pu exiger l'inverse, mais ça paraissait plus judicieux qu'elle puisse réagir à ce que je dis là et pas seulement au livre en tant que tel. Alors, la difficulté pour moi, et ce ne sera pas son cas, c'est que certains d'entre vous ont lu ce petit livre, et je ne vais pas le résumer, ce qui serait très ennuyeux pour eux, et d'autres ne l'ont pas lu. Donc il faut quand même que j'en parle. Donc j'étais pris un peu dans une nasse, et j'ai choisi de faire une sorte d'introduction à cette soirée à travers ce livre. Alors, l'histoire de ce petit livre, Patrick Van Dieren en a déjà dit quelques mots. Comment tout cela s'est-il fait? C'est le pasteur Alain Ouzio qui a organisé le samedi 26 mars 2011, vous voyez que je garde mes agendas, une réunion dans le cadre de l'auditoire. Il dirigeait, vous vous rappelez, ce cette entreprise, ce mouvement du protestantisme qui s'appelle l'Auditoire. Et il avait consacré une soirée à comment accepter de vieillir. Et dans cette soirée, il devait savoir les questions qui étaient les miennes, il m'avait donc fait venir. Mais il y avait aussi Pierre-Olivier Monteil comme philosophe, bon, Alain Ouzio bien sûr, et vous-même qui êtes intervenu. Et j'ai gardé un très très bon souvenir de votre intervention et nous ne nous sommes pas revus depuis ce 26 mars 2011. Mais je vous ai écrit et téléphoné pour vous demander si vous accepteriez de participer à notre soirée et vous avez répondu très favorablement. Et pourquoi avais-je gardé un si bon souvenir de votre intervention ? Parce que vous aviez dit au moins deux choses. Moi, j'avais dit comment accepter de vieillir, la seule manière de l'accepter, c'est de ne pas l'accepter. Et après mon intervention, vous aviez dit que c'était peut-être la première fois qu'ayant affaire à un membre du clergé, je mets ça en guillemets, vous aviez l'impression qu'il n'avait pas doré la pilule.
Oui, oui.
Et vous étiez reconnaissante de cela, et même assez étonnée. Mais ensuite, vous avez fait un exposé tout à fait remarquable, où il y avait beaucoup plus de spiritualité que dans le mien. Alors je me disais, le pasteur, c'est un peu elle ce soir. Et non, c'était un matin. Ce matin-là, donc j'ai pensé que ce serait bien qu'on refasse équipe tous les deux aujourd'hui. Et puis, il faut que je cite Raphaël Picon, que vous connaissez, je pense, pour la plupart, le théologien, qui a été rédacteur en chef d'Évangile et Liberté, et qui savait, parce qu'on en parlait, que c'était un de mes amis les plus proches, et qui savait que j'avais peur de la mort. Et il m'avait dit, il faut absolument que tu fasses un dossier central d'Évangile et Liberté là-dessus, sur « J'ai peur de la mort ». Et j'ai toujours hésité, et finalement j'ai refusé parce que je trouve que ce sujet ne relevait pas d'un organe de la presse. Ça me semblait très gênant, je préférais, dans un petit livre, dire l'essentiel de ce que je voulais exprimer alors. Et puis Raphaël Picon m'a fait venir à un séminaire écuménique qui avait lieu à la faculté catholique, la Cato, comme on dit, rue d'Assas. Il m'a fait venir dans ce séminaire qui était consacré à la mort et au service funèbre, écuménique, parce qu'il y avait un orthodoxe, un catholique, et lui comme protestant, pour animer ce séminaire. Il m'avait dit, tu viendras, il y avait beaucoup de monde, comme ce soir, tu viendras nous dire, j'ai peur de la mort. J'ai hésité, j'ai quand même dit oui. Alors, l'essentiel de ce que j'avais dit avec vous, c'est un peu la première étape de ce livre, et l'essentiel de ce que j'ai dit dans ce séminaire, c'est un peu la deuxième étape. Et ma grande surprise, ça a été que je n'ai eu aucune opposition. Il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord, mais personne ne m'a agressé en disant que c'était assez scandaleux qu'un pasteur puisse dire les choses que je disais. Et puis, Patrick Van Dieren, comme il vous l'a dit depuis des années et des années, qui savait lui aussi que j'ai peur de la mort, m'avait dit, il faut que tu écrives cela, et je l'éditerai volontiers. Alors, j'ai écrit le livre, je lui ai envoyé, avec crainte et tremblement, parce qu'un éditeur a toujours le droit de refuser même un exemplaire qu'il a commandé, et il m'a répondu, ton petit livre m'a enchanté, c'est le mot qu'il a utilisé, et il est moins noir que ce que je craignais. Alors, ça m'a bien réjoui. Donc, je l'ai écrit. Je ne l'ai pas dédié à Raphaël, ce qui, dans mon esprit, Raphaël Picon, aurait pu être le cas. Mais comme il est mort si brutalement, si tragiquement, en janvier de cette année, à l'âge de 47 ans, je trouvais indécent de lui dédier un livre intitulé « J'ai peur de la mort », qui aurait pu laisser supposer qu'il avait peur de la mort, ce qu'il ne m'a jamais dit. Alors, je ne sais pas s'il avait ou non peur de la mort, mais en tout cas, il ne l'a jamais exprimé, il ne l'a jamais manifesté, il ne l'a jamais dit, et pourtant, on en a parlé, et jusque dans ces derniers jours, j'ai demandé à Cécile Picon, son épouse, si elle était d'accord avec moi, qu'il ne fallait pas lui dédier ce livre. Elle m'a dit, tu as parfaitement raison, il ne faut pas le faire, et je l'ai dédié à une amie très chère, dont nous partageons beaucoup de combats dans le christianisme social, dans le protestantisme libéral, Odile Chardonneau, qui est naturellement dans cet auditoire. Alors, une autre chose que je voulais dire, c'est le titre volontairement personnel. Je ne voulais pas faire un traité sur la mort, ni même sur la peur de la mort. J'ai voulu faire quelque chose de concis, et il est vrai qu'alors, je pourrais dire que chaque phrase et chaque mot compte, et ce n'est pas parce qu'il a 45 pages, je crois, qu'il faut le lire à toute vitesse, à mon avis. Et voyez-vous, « J'ai peur de mourir » n'aurait pas été le titre que je voulais. Je n'ai pas peur de mourir. C'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus océanique, ma peur. C'est pour ça que j'ai mis « J'ai peur de la mort ». Je ne voulais pas faire pédant et académique. Il est vrai que l'habitude allemande magnifique, où un verbe infinitif devient très facilement un substantif, m'aurait permis en français de dire « j'ai peur du mourir ». C'est bien ça que je voulais dire. Parce que mourir englobe aussi le fait de vieillir et de mourir en quelque sorte à chaque instant. Le mourir, le vieillir. Alors j'ai fait un texte court, vous vous rappelez que Karl Marx, auquel on demandait pourquoi son livre Le Capital avait des proportions aussi énormes et gigantesques, avait répondu « je n'ai pas eu le temps de faire court ». Alors j'ai pris ce temps et c'est pour cela, je pense, que depuis des années et des années, j'ai pris le temps de faire court. Quel est un peu le but de ce petit livre? Pourquoi? J'ai beaucoup hésité à le publier. D'abord, j'avais peur de choquer. Qu'on dise comment un pasteur, un croyant qui a été professeur de théologie vient nous dire qu'il a peur de la mort, c'est assez scandaleux. Et puis, ce ton personnel est parfaitement déplacé. Encore que, à mon avis, dans des pièces de théâtre, dans des romans, un auteur se dévoile en général beaucoup plus que dans ses essais autobiographiques. Dans l'autobiographie, dans le ton personnel, on cache, on maquille, on arrange un peu les choses, tandis qu'on se lâche dans les romans, on se lâche dans le théâtre, et finalement je crois que pour bien connaître un auteur, et pour savoir quel est véritablement cet homme ou cette femme, il faut lire son théâtre et ses romans. Je vous raconte par exemple Simone de Beauvoir. Bon, j'ai publié un livre sur Simone de Beauvoir. Je vais faire une parenthèse, excusez-moi, qui me met en avant d'ailleurs. L'éditeur suisse qui avait publié Mon Gide et Mon Camus, les livres m'avaient été commandés. Je n'ai jamais publié de livre, c'est une chance extraordinaire que j'ai eue, qui ne m'ait été commandé. Jamais cherché un éditeur. Alors, mon éditeur suisse m'a dit « j'aimerais que vous fassiez un livre sur Sartre ». Alors, pour connaître Sartre, j'ai lu Simone de Beauvoir et j'ai été conquis. Elle reste mon auteur préféré. Et une des choses qui m'a conquis chez elle, c'est sa terreur de la mort. Elle est athée et pourtant, elle a toujours écrit pour dire sa terreur de la mort. Et alors, Simone de Beauvoir, j'ai écrit ce livre. Et c'est vrai que c'est surtout dans le chapitre sur sa peur de la mort qu'on comprendra ma peur de la mort, peut-être plus que dans le petit livre que vous avez entre les mains et sous les yeux. Alors, j'ai écrit ce livre, je l'ai envoyé à mon éditeur suisse, qui l'a refusé. Et je lui ai répondu que c'était le droit d'un éditeur, même pour un livre commandé. Il m'a dit « c'est la première fois que je ne brouille pas avec un auteur auquel je refuse le livre ». Je ne me suis effectivement pas brouillé avec lui. Mais moi, je trouvais qu'il n'était pas si mal, ce livre, et que les raisons pour lesquelles il le refusait n'étaient pas si bonnes. Alors, je l'ai envoyé à Simone de Beauvoir, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, dont je n'avais pas l'adresse. Je l'ai envoyé à la revue de Sartre et Simone de Beauvoir, Les Temps modernes. Ça, on pouvait avoir l'adresse. Et des mois après cet envoi, je reçois une lettre de Simone de Beauvoir qui me dit, vous avez de la chance que j'ai trouvé votre essai parce que au temps moderne, c'est un bric-à-brac invraisemblable, et je ne sais pas par quel hasard je suis tombé sur votre emploi, mais vous me disiez dans votre lettre que vous étiez pasteur et suisse, et pour moi, vous accumuliez les catastrophes. Donc, j'avais décidé, me dit-elle, de ne pas ouvrir ce livre, de ne pas le lire et de vous le renvoyer, avec simplement un remerciement. Et puis, me dit-elle, j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu m'arrêter, et je vous le renvoie avec une préface. Ce qui, pour moi, a été vraiment remarquable. Et elle concluait sa préface par ces mots, « On me lira mieux vous ayant lu ». Alors, de Simone de Beauvoir à un pasteur, c'était quand même assez remarquable. Et il y a quelques années, quand tu as édité la réédition de mon Gilles Camus, Beauvoir et Sartre, sous le titre « L'athéisme nous interroge », une recension est parue dans le petit journal protestant, vous savez, qui s'appelait à l'époque La Voix protestante, qui s'appelle aujourd'hui Parole protestante. Le recenseur a écrit quelque chose qui m'a fait plaisir en disant « Chacun des auteurs, Gide, Camus, Beauvoir et Sartre, aurait pu vous dire « On me lira mieux vous ayant lu ». Donc, j'évoque cela pour dire l'importance d'un livre, d'un essai, où peut-être on me découvre plus que dans ce « J'ai peur de la mort ». Alors, pourquoi j'ai quand même publié ce livre ? Parce que je me suis dit, je vais déculpabiliser beaucoup de monde. Et j'espérais en déculpabiliser davantage que ceux que j'aurais choqués. Des chrétiens, des croyants qui ont peur de la mort, qui n'osent à peine le dire, et qui se disent, est-ce que je suis un bon chrétien, est-ce que je suis un bon croyant, en ayant peur de la mort, et c'est pour eux, essentiellement, que j'ai écrit ce livre. Ils n'osent pas le dire devant un pasteur, ils n'osent pas le dire devant un prêtre. Surtout parce que dans le monde qui nous entoure, les gens, je pourrais dire, pensent qu'être croyant, qu'être chrétien, c'est d'abord croire qu'il y a quelque chose après la mort. Ce n'est pas du tout ça pour moi, être chrétien, être croyant, même si je crois à la vie éternelle. Ce n'est pas du tout ça l'essentiel. Et même, je suis très agacé quand des gens me disent « Vous avez bien de la chance, monsieur le pasteur, d'être chrétien », ce qui veut dire de penser qu'il y a quelque chose après la mort. Mais ce n'est pas du tout comme ça que je vois le christianisme. Jean-Denis Bredin, que je cite dans cet ouvrage, vous savez, l'écrivain, l'avocat, affirme « Mourir peut être une forme de violence, même pour ceux qui ont la foi ». Cela m'a paru très fin et très juste, encore que je n'aime pas tellement l'expression « avoir la foi », « avoir la foi ». À la limite, la foi est la seule chose qu'on ne puisse jamais avoir. Il ne faut pas avoir une notion capitaliste de la foi. Mais en tout cas, disons, être chrétien, ce n'est pas d'abord et surtout penser qu'il y a quelque chose après la mort. Pour moi, c'est vivre maintenant dans le sillage de Jésus. C'est ça pour moi, être chrétien. C'est-à-dire mettre en œuvre, tant que faire se peut, avec nos moyens modestes et dérisoires, mettre en œuvre un christianisme pratique et un christianisme social. Vous connaissez la fameuse affirmation de Jésus, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » C'est à l'amour, dit Jésus. Ce n'est pas à des credos, à des cultes, à des rites, ce n'est pas à des définitions et non plus à des églises. On ne croit pas en Dieu ou Jésus pour ne plus avoir peur de la mort. Et ça, c'est un reproche qu'on nous fait très souvent dans l'athéisme. Vous ne croyez en Dieu et en la vie éternelle que parce que vous voulez ne plus avoir peur de la mort. Mais en fait, vous ne croyez pas vraiment en Dieu, vous ne croyez pas vraiment en l'éternel, vous croyez en cela parce que ça vous arrange. C'est de la pure aliénation religieuse. Eh bien, dans ce texte, j'ai essayé de montrer, non, 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 on peut ne pas du tout sombrer dans l'aliénation religieuse et croire quand même en Dieu et en la vie éternelle. D'ailleurs, quand on m'a dit, mais c'est quand même scandaleux que vous ayez peur de la mort, j'ai répondu, Jésus a eu peur de la mort. Quand on lit les pages de Gethsémané, Jésus demande que cette coupe passe loin de lui, cette coupe amère, et on nous dit qu'il pleure à Gethsémané des larmes de sang. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Alors, une deuxième série de remarques que je voudrais faire, c'est que je suis irrité, le mot est faible, par tous ces ouvrages très bien pensants, très chrétiens, sur la vieillesse, où on nous dit que vieillir, c'est merveilleux. Or, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On dort la pilule, on farde la vérité, on fait ce que disait Marc Pernot tout à l'heure, du prêchi-prêcha, d'où la première partie de ce petit livre, et le ton qui est le sien. Très réservé, en fait. Très peu de spiritualité dans mon livre. Très, très peu. Parce que j'ai voulu être pudique. Je n'ai pas voulu saupoudrer ce que je dis de ma peur de la mort d'un peu de spiritualité pour faire passer les choses. N'est-ce pas ? C'est un peu une spiritualité crème de chantilly. Non. J'estime que dans ce domaine, il faut aussi une honnêteté intellectuelle et spirituelle. Et je suis pudique en ne mettant pas en avant ma piété, en ne mettant pas en avant ma relation avec Dieu dans ce petit livre. Alors, je n'ai pas dit, c'est vrai, on peut me le reprocher, les aspects positifs de la vieillesse et du vieillir. Je ne les ai pas dit, c'est volontairement que j'ai fait cela. De toute façon, bien vieillir, c'est quand même un privilège. Moi, je vieillis bien. J'ai la chance de pouvoir vieillir bien. Mais sur cette terre, il y a des milliers, des millions de gens qui ne peuvent pas bien vieillir, pour qui la vieillesse c'est l'horreur, ou qui n'atteindront pas une vieillesse, quelle qu'elle soit. Alors là, je crois qu'il faut le dire, l'affirmer, je suis conscient du privilège que j'ai de bien vieillir. Voyez-vous, par exemple, je ne prends aucun médicament, j'ai 77 ans, bientôt je ne pourrai plus lire Tintin, par conséquent, j'aurai 77 ans cette année, c'est un luxe. Dans un sens de dire j'ai peur de la mort. Parce que beaucoup de gens ont peur de la vie. C'est pas d'abord la mort qui est un problème, c'est la vie qui est un drame pour eux. Et ils souhaitent en quelque sorte la mort. Et cela, je l'ai dit en passant dans mon livre, mais je l'ai dit quand même. Et là encore, Jean-Denis Bredin écrit « La vieillesse peut être le lieu privilégié des inégalités naturelles ». C'est vrai qu'on a plus ou moins ces gènes qui font qu'on est comme ci ou comme ça, mais il ajoute « Le lieu privilégié des inégalités naturelles, mais aussi des inégalités sociales ». C'est pour ça que je vous dis qu'à la limite, pouvoir écrire ce livre, dire « J'ai peur de vieillir », c'est presque un luxe de privilégié. Et j'aime bien que vous ayez, dans ce livre qu'on citait tout à l'heure, « La vie à l'épreuve du temps », parlé de cette vieillesse à plusieurs vitesses. Il y a une médecine à plusieurs vitesses, mais vous vous dites qu'il y a aussi une vieillesse à plusieurs vitesses, et j'en suis convaincu. Alors, je ne crois pas que j'ai gommé cet aspect, mais je n'ai pas beaucoup insisté peut-être sur la peur de vivre. C'est une paroissienne qui m'a dit l'autre jour, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a peur de vivre et qu'on désire mourir dans certains cas? Et peut-être n'ai-je pas assez insisté sur cet aspect des choses. Je n'ai jamais eu autant de réactions orales, écrites, par mail ou manuscrites pour un livre que pour celui-là. Déjà beaucoup, alors qu'il vient de sortir. Il était, je crois, en librairie à partir du 9 mai. C'est tout récent. Eh bien, j'ai reçu des réserves, de mini-oppositions, de l'enthousiasme. Quelqu'un m'a dit « merci beaucoup, deux fois, j'aime beaucoup votre livre ». Quand je faisais cours à la faculté de théologie protestante de Paris, je consacrait, quand je parlais des services funèbres, des actes pastoraux, vous savez, baptême, bénédiction nuptiale, confirmation, service funèbre, je parlais bien sûr de la mort. Et j'avais tout un cours intitulé « prendre la mort au sérieux. Prendre la mort au sérieux. Parce que pour moi, c'est une des manières privilégiées de prendre la vie au sérieux. Et ceux qui ne prennent pas la mort au sérieux, me semble-t-il, ne prennent pas tellement la vie au sérieux. Et j'ai mis en tête de cet ouvrage une citation de Bossuet. Bon, vous auriez peut-être préféré une citation de Wilfred Monod. Mais enfin, Bossuet a prêché dans la chaire de l'oratoire, vous savez. Alors, c'est très flatteur pour nous de s'y trouver. Bossuet qui écrivait « C'est une étrange faiblesse de l'esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoi qu'elle se mette en vue de tous côtés et en mille formes diverses. » J'ai voulu dire cela et j'aime bien ce que vous écrivez dans votre livre, que vous dites « Nous essayons d'étouffer l'affaire ». Dans notre société contemporaine, au sujet de la mort.
C'est Freud qui dit ça.
C'est Freud qui dit ça. Nous essayons d'étouffer l'affaire.
C'est vrai. Ouais.
C'est vrai. Alors, quand je dis j'ai peur de la mort, ça veut dire j'aime beaucoup la vie. Et que pour moi, chaque minute de plus est une minute de moins. Donc, chaque minute revêt une importance considérable. Chaque matin, pour moi, est comme un premier matin. Je me dis, oh, quelle chance j'ai. Je suis encore vivant. Vous citez dans votre livre Benoît Groux, je pense que vous voyez qui est Benoît Groux, qui a 86 ans, écrivait, 86, hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Pouvoir ouvrir ses volets chaque matin et découvrir le jour naissant est un cadeau si précieux. Le monde redevient frais, alors que quand on est jeune, on ouvre machinalement ses volets. Et ça m'a semblé une remarque très juste. Chaque berceau bascule vers la mort, qu'on le veuille ou non. Et Simone de Beauvoir a publié un livre, un roman, qui s'appelle « Tous les hommes sont mortels », dont le héros est immortel. Et elle montre que la vie n'a plus aucun sens, n'a plus de valeur, parce que le héros traverse les événements quels qu'ils soient, qu'il s'y engage, qu'il ne s'y engage pas, et c'est bien qu'il vivra toujours, il est immortel. Et c'est une démonstration par l'absurde pour montrer que la mort, finalement, est une chance, en quelque sorte, pour notre vie. Et j'ai insisté sur prendre la vie au sérieux, mais la prendre concrètement au sérieux, les nourritures terrestres au sérieux, pas seulement la spiritualité dont on se gargarise dans certains lieux. Et à trois reprises, c'est la seule chose que je répète trois fois dans ce livre, j'insiste sur le fait de l'importance des nourritures terrestres. Et c'est pour cela que j'ai récuse l'idée de l'immortalité de l'âme. Je défends l'idée de résurrection, c'est absurde bien sûr. C'est beaucoup plus facile de croire à l'immortalité de l'âme qu'à une résurrection de milliards et de milliards et de milliards d'êtres, peut-être même les animaux, etc. etc. Mais sous la plume de ceux qui défendent l'idée de l'immortalité de l'âme, il y a toujours des accents pour dévaloriser notre condition humaine, physique, mortelle, matérielle, terrestre et sexuelle. Et ça, je ne le veux pas. Donc je ne veux pas de cette immortalité de l'âme qui est une manière de tout spiritualiser et qui est une manière de dire maintenant quelque chose d'une dévalorisation des nourritures terrestres. Alors, on m'a dit aussi que mon livre était pessimiste. Moi, je trouve que c'est l'avoir mal lu. J'ai reçu hier un mail de quelqu'un qui me prend en pitié, qui me dit « Je vois que tu fais une dépression terrible, je te recevrai volontiers chez moi, on te remontera le moral et tout ira mieux. » Pas du tout. J'ai toujours eu peur de la mort. C'est pas parce que j'en suis plus près aujourd'hui que quand je suis né que j'ai peur de la mort. Ça m'appartient, je suis ainsi. Alors, trois petites remarques de conclusion. Ça va, dans le temps ?
Oui, c'est de nouveau trois.
C'est de nouveau trois, oui, j'ai toujours trois. Alors, d'abord, je crois à la vie éternelle, mais je n'en sais rien. Je crois, mais je n'en sais rien. Et trop souvent, j'ai l'impression que les chrétiens disent « je sais » quand ils devraient dire « je crois ». Je milite, vous le savez, pour un agnosticisme commun. Il y a ceux qui disent « je crois que Dieu existe », mais je ne le sais pas. Et ceux qui disent, je crois que Dieu n'existe pas, mais je ne le sais pas. C'est un peu la position d'Albert Camus. Daniel Marguerat, qui est un exégète que nous connaissons tous, je pense, ou presque tous, protestant, suisse, pas du tout libéral, hein, écrit dans un de ses derniers livres, « Ce que nous savons de l'après-mort tient en un seul mot, rien. » Tout orthodoxe qu'il est dans sa confession de foi. Deuxième petite conclusion, j'affirme un sola gratia. Ce qui advient de moi après ma mort, comme dans ma vie, ne dépend pas essentiellement de moi. Je m'en remets à Dieu. Sola gratia. Et c'est pour ça qu'en conclusion de mon livre, je cite la belle prière du pasteur Wagner, qui a fondé le foyer de l'âme en 1907. Wagner, qui dans cette prière dit « En toi, adressé à Dieu, je me confie, à toi, je remets tout. » C'est exactement ce que je peux dire aujourd'hui. Et puis, troisième chose, j'aimerais vous citer, vous dites « La vieillesse peut être perçue et vécue comme un accomplissement. » C'est probablement un manque chez moi, mais je ne la vis pas du tout comme un accomplissement. Alors, peut-être que je vois une résonance parfois négative de l'accomplissement qui est un peu une autosatisfaction, ce n'est pas du tout ça que vous voulez dire. Mais il n'y en a point comme nous, ou être parvenu enfin, non, ce n'est pas mon cas. Et je crains malheureusement qu'il faille que je vive encore très longtemps pour connaître cet accomplissement.
Eh bien, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord beaucoup vous remercier, Laurent Gagnebin, Marc Pernaud et Patrick Van Dieren, de m'accueillir ici parmi vous dans cet oratoire. Je suis très contente de vous retrouver 5 ans après, oui. Puisqu'en effet, cela fait 5 ans qu'on parlait de la peur de vieillir, et nous voici parlant de la peur de mourir. Alors, j'ai été touchée, vous m'avez appelé, j'étais en vacances en Bretagne, pendant les vacances de printemps. J'ai dit oui tout de suite, parce que je me souvenais de vous, et en effet, je trouvais que vous étiez courageux dans votre engagement et dans votre parole. Et ayant regardé votre bibliographie, je vous trouve aussi courageux d'écrire en vous dévoilant, d'écrire en vous investissant dans votre vérité de sujet, finalement. Avec une parole, en effet, où vous dites « j'ai peur ». Et aujourd'hui, dans notre société, la vieillesse et la mort sont déniées. On est dans une société du faire, de l'avoir, de la vitesse, de la performance, il faut vieillir jeune. Surtout ne pas faire son âge. Tant qu'à la mort, évidemment, elle est bien souvent médicalisée, et la clinique de la fin de vie à laquelle je suis très sensible se réduit souvent à vouloir arrêter la vie, puisque les gens, quand on fait un débat comme j'ai organisé sur la clinique de la fin de vie, ne pensent qu'à euthanasie ou pas euthanasie, donc ils éludent finalement la vraie question. Donc, dans votre livre, j'ai retrouvé d'abord ce que je ressens aussi, quelque part, en tant que psychanalyste d'adulte, qui reçoit depuis 25 ans en cabinet privé des adultes de tous les âges, jeunes et vieux. Alors ça me donne, si vous voulez, un regard particulier de la vieillesse. À quel âge est-on vieux? Pas tous au même âge. Et je préfère... Il y a quelque chose qui fait du bruit?
Non, mais... Je pense que c'est la prise qui fait
c'est la
un
prise.
Court-circuit. Donc, si vous le laissez fixe, peut-être que...
On va essayer. Je pense qu'on n'est pas tous vieux au même âge et qu'il est important de considérer une personne dans son parcours de vie. Donc, j'écoute l'enfant dans l'adulte et à partir de 80 ans, car je reçois aussi des personnes qui font une escale analytique, c'est-à-dire qui posent une valise parfois lourde chez moi, analyste, et qui ont tous les âges à la fois. Et ils me disent quoi, ces personnes-là? dans cette crise, puisque vous avez eu la gentillesse de dire que mes travaux portaient sur les crises existentielles qui jalonnent la vie de l'aube au crépuscule, ils sont dans leur sénescence. Et à partir de 60-65 ans, le grand changement de rapport au corps et au temps qu'on avait éprouvé au milieu de la vie à 50 ans, il est crucial. La question que vous soulevez dans votre livre, la question du temps qui reste taraude, c'est la sénescence. Après la naissance, l'adolescence, la parentalité naissante, la maturescence, le milieu de la vie, on en est à la sénescence. Alors là, je vais vous contredire, alors, qu'on peut écrire en deux mots, sénescence. Je voudrais essayer de vous faire partager ça pour ouvrir un dialogue avec vous. Oui, vous dites à un moment donné, citant Chateaubriand, que la vieillesse est un naufrage. Alors oui, c'est vrai que vos propos recoupent tout ce que me disent mes patients dans cette crise existentielle sans précédent. Et c'est ce que je ressens. Vous avez dit votre âge, je vais dire le mien, j'ai 62 ans. Je ressens la même chose que vous, dans la mesure où j'ai perdu mon papa à 61 ans, ma maman 6 mois après, il y a 25 ans, et que ma vie a été assez jalonnée de deuil. Donc je suis très sensible au sujet que vous traitez. Mais je pense que ce qui nous sépare un tout petit peu, c'est la conception de la maturité. Car je pense qu'on n'évolue pas de façon linéaire, mais de métamorphose en renaissance successive. Vous citez Albert Schweitzer à un moment donné dans votre livre, qui parle de la maturité, et il dit « je vois pas ce que ça a de bien la maturité, c'est la perte, c'est le renoncement ». Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ce que vous dites très bien dans votre livre, et sans tabou, c'est quand même pas drôle de vieillir. Quand le corps fout le camp, comme dit un monsieur qui est Christian Galopin, qui est un médecin qui travaille en soins palliatifs, c'est vrai que c'est pas drôle d'avoir des rides, de marcher plus lentement, de perdre certaines capacités sexuelles. C'est rare quelqu'un comme vous qui parle du sexuel. Là aussi, vous êtes quelqu'un de très ouvert. Bien qu'il y ait une sexualité et de l'éros chez les personnes âgées. C'est pas drôle d'aller plus lentement alors que le temps passe vite et qu'on a l'impression qu'il nous faut beaucoup plus de temps pour accomplir les choses. Mais il y a cependant une ouverture dans la maturité. Il y a que, au fond, quand on sort du paraître, c'est pas drôle de ne plus ressembler à ce qu'on était avant. Et c'est vrai que l'identité vacille. Mais, au fond, on a construit notre vie. On s'est marié ou pas. On a eu des enfants ou pas. On a eu un métier qu'on a aimé ou pas. Et au fond, on se dit, mais quel sens à ma vie? Et je crois qu'il faut avoir déroulé assez le ruban de la vie, voyez-vous, pour en sentir la densité, voir à quoi elle ressemble, cette vie. S'apercevoir qu'il y a plusieurs vies dans la vie. Et se dire qu'au fond, à partir de 70-80 ans, c'est peut-être là qu'on va à l'essentiel. Quel sens a la vie? Alors peut-être que ça n'a pas de sens au sens rationnel. C'est plus je pense donc je suis, vous qui êtes philosophe. C'est je suis là où je ne pense pas. Et ce qui est très difficile dans notre société de l'avoir avec cette course de vitesse, c'est que tout le monde veut faire du sens, donner du sens, accepter que ça n'a pas de sens, perdre la maîtrise. C'est très difficile. Et on est directement dans l'être, comme quand Benoît de Groult ouvre ses volets et qu'elle voit le soleil. On est plus attentif à cette architecture-là, qu'on n'aurait peut-être pas vue si on pensait « qu'est-ce que je vais faire après ?» qu'on était en train de surfer sur Internet, sur son portable. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un gain à la maturité, parce que c'est une ouverture à la vie. C'est aller directement dans l'être, en prise directe avec le réel. Quand le narcissisme, l'image s'en va, on cesse de s'identifier dans notre parcours de vie à des images de nous. Pour être directement dans l'être, et vous avez dit une phrase tout à l'heure, vous avez dit au fond, j'ai peur de la mort, c'est une peur océanique. Je crois que c'est très juste. C'est une peur du vide. Mais qui ne l'aurait pas? Ça serait dans le déni. Qu'est-ce qu'on saura? Qu'est-ce qu'on sait d'après? Je pense qu'il faut envisager que ça soit sous une autre forme après. Pas l'ego, c'est l'ego qu'on a peur de quitter, notre ego. Mais finalement, l'ego, c'est le moi. Au-delà du moi, il y a le soi corporel, l'être. Le soi corporel, il est pétri des premiers corps à corps avec la maman des premiers temps. Et la maman des premiers temps, à travers sa façon de nous bercer, de nous porter, de nous présenter le sein et de nous laisser l'utiliser, le sein ou le biberon d'ailleurs, cet objet premier, qu'est-ce qu'elle nous raconte, notre mère des premiers temps? Eh bien, elle nous raconte à travers des signifiants infraverbaux, c'est-à-dire l'odeur, le ton de sa voix, les ratés, les ruptures, cette petite musique de nuit, au-delà du sens des mots, de la petite musique de jour. Elle nous raconte une histoire. Elle nous raconte l'histoire des générations. Et dans cette histoire, parfois, il y a des choses lourdes à contenir. Si notre mère a été dépressive, trop absente, en deuil, si elle a fait ce bébé qu'on a été avec son papa pour l'offrir à sa maman, bébé de l'Œdipe, si elle l'a fait toute seule, dans sa tête, même si elle l'a fait avec notre père, si elle a laissé une place à notre père, le petit bébé, il sent tout ça comme une histoire, plus ou moins euphonique, plus ou moins cacophonique. Il s'inscrit comme une note de musique dans une portée musicale. Et dans les après-coups de la vie, dans les temps ultérieurs, intenses, notamment quand il y a un rapport au corps et au temps qui est changé et bouleversé. Alors évidemment, quand on devient parent, surtout pour les femmes, bien sûr, on sait que l'image du corps change et qu'il y a un bouleversement hormonal et un bouleversement psychique. Évidemment, en temps de ménopause, pour les femmes, c'est fini ce cycle où on se repérait. On est propulsé dans un seul et unique cycle qui se termine par la mort. Mais aussi pour les hommes, ils ne sont pas exempts de l'andropause, les hommes, avec certaines choses qui partent en vrille. On parle beaucoup de la débandade du moi. Cette dépression n'est pas qu'une dépression érectile, et c'est très triste aussi pour un homme, et très tabou de le dire. Chez les femmes, c'est plus une perte phallique dans le domaine de l'être, dans la mesure où leur corps est érigé comme, je dirais, un phallus, au sens c'est un fleuron de la féminité. C'est l'érogénéité de leur corps tout entier qui vacille. Chez un homme, c'est plus dans le registre de l'avoir. Vous voyez ? Et au moment de la sénescence, comme chaque temps d'après-coup de la vie, il y a une crypte qui s'ouvre. Et cette crypte, c'est la crypte de la mémoire du corps, dans laquelle ce qui transitait du corps de notre mère et de notre père au nôtre se réveille. C'est pour ça que les deuils anciens, non accomplis en leur temps, les chocs anciens de la vie enfouis, reviennent en boomerang. Alors, dans cette sénescence, ce « j'ai peur de la mort qui taraude » plus à partir de 70, 80, je le connais bien, mon mari a 82 ans. C'est un grand psychanalyste que j'admire beaucoup, qui nous a écrit « L'ouverture à la vie », le livre rouge de la psychanalyse, il s'appelle Alain Amselek, et je vous renvoie à ses ouvrages. Et il en parle tellement bien en s'impliquant comme vous à la première personne. Bien sûr que la mort est là, mais qu'il faut essayer de l'apprivoiser. Alors oui, ça peut être un accomplissement, mais vous le dites aussi. Vous dites « me réveillerai-je demain ?» Comment vais-je mourir ? Qui ne se poserait pas la question ? C'est quand même pas pareil de mourir dans son lit, dans son sommeil, de mourir dans un accident, de mourir de chagrin. C'est vrai ? Alors, à ce moment-là, évidemment que la peur est différente. Alors, il y a Michel de Musan, psychanalyste, qui est un des rares à avoir travaillé dans un livre qui s'appelle « De l'art à la mort », la question, dans un article de 1970, article culte, « Le travail du trépas ». Ce travail psychique qui s'accomplit et qui se développe, je dirais, les derniers mois d'une vie. Peut-être un temps qui précède l'agonie, mais il parle aussi de l'agonie. Cette expansion du moi, cette fusion, cette dernière dyade, comme il dit, qui s'effectue quand, si vous voulez, on a la chance d'avoir auprès de soi, dans ce moment crucial, une personne pour vous accompagner, qui prête sa présence simplement, peut-être en vous touchant, pas forcément. Et à ce moment-là, dans cette dernière union fusionnelle, si la personne, ce peut être un parent, un proche, une infirmière, la personne qui se trouve là, qui a le courage de ne pas avoir peur de se laisser emporter, parce qu'en général, quand quelqu'un va mal, on n'ose pas aller le voir, on a peur de la maladie, on a peur que ça soit contagieux, et en général, on évite d'y aller et d'emmener les enfants en se disant qu'ils vont avoir peur. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'eux n'ont pas peur, les enfants. Ils sont de plein pied, eux. Comme les personnes atteintes de maladies dites dégénératives, très vilain mot, ils n'ont pas peur, les enfants. De rire, de toucher, c'est nous avec notre moi et nos représentations, on a peur. Donc si on n'a pas peur, il s'effectue dans les derniers instants, oui, un travail où on peut grandir. Alors j'ose dire, pour avoir accompagné quelques personnes dans leurs derniers instants, que vieillir c'est grandir et qu'on peut mourir dans un certain accomplissement. Et que s'il y a une seule naissance au monde, il y a plusieurs naissances à la vie, car on ne cesse à chaque étape existentielle de renaître à la vie, jusqu'à la mort comprise, proche de l'accomplissement, si toutefois elle n'est pas occultée. Oui, parce que les trois quarts du temps, ce que vous avez écrit, tout le monde le pense peut-être, mais personne n'ose le dire. Tout le monde a peur de la mort, je pense, au fond. Dans cette salle, je ne sais pas s'il y a une personne qui n'a pas peur de la mort. Peut-être on le saura tout à l'heure quand on leur donnera la parole. Alors, vous avez dit très justement la peur de vivre. Oui, je pense que c'est la peur de vivre, dans la mesure où cette peur du vide, pour la petite expérience que j'ai avec mes patients depuis 25 ans, je dis petite parce qu'on apprend tous les jours et que ce sont mes patients qui m'apprennent des choses, Je pense que cette peur de la mort, de l'inconnu, comme vous dites très bien, de l'imprévisible, elle est quand même, dans les sujets que j'écoute, très reliée à la qualité de l'environnement premier qu'ils ont eu quand ils étaient enfants et petits bébés. Et que si on a eu des chocs, des traumatismes, un environnement chaotique quand on était enfant, on a traversé ce que j'appelle des dépressions atmosphériques, voire même le sevrage, l'étape du sevrage, qui n'est pas l'arrêt du sein ou du biberon, qui est tous ces mois d'accordage affectif progressif où les parents doivent laisser l'enfant prendre son envol et son autonomie, où un enfant, un petit enfant, on doit lui laisser exercer sa motricité libérée, comme disait Albert Grenier, pédiatre. Eh bien, s'il y a eu des hiatus dans les premiers temps de l'existence, je pense que l'enfant, le bébé, a traversé ce que Winnicott, pédiatre d'abord et psychanalyste, appelait des agonies primitives. Je vois qu'il y a des gens qui ont lu Winnicott. Ces agonies primitives, c'était pour Winnicott, qui pensait qu'on ne cessait d'effectuer tout au long de notre vie, et je partage son avis, un travail d'intégration, de reconstruction de la vie passée, eh bien, d'allant devenant, comme disait Françoise Dolto, hein, on ne cesse d'effectuer un travail d'intégration comme ça jusqu'au dernier souffle, jusqu'à notre mort. Et ces agonies primitives, c'était l'impression de chuter sans fin, l'impression que le corps éclate, les angoisses de corps dissociés, de corps fragmentés, de se dissoudre. Les autistes traversent ces états de non-intégration. Je ne parle pas d'états de désintégration, qui sont des états psychotiques, qui sont des états de délire, de défense, à éprouver ces étapes qu'on a tous traversées à des degrés divers. Alors, si on a eu un environnement suffisamment constant, on a traversé ces états de manière infinitésimale et on a eu des parents qui ont rétabli ce sentiment continu d'exister qui était brisé. Mais ces événements, avec le départ à la retraite, le départ des enfants de la maison, l'entrée en institution, l'hospitalisation, le veuvage, qui est un des traumatismes les plus forts dans la vie, le divorce tardif, le divorce des enfants, parfois perdre un enfant, qui est, à mon avis, la douleur la pire qu'on puisse subir, ça fait rupture dans le sentiment continu d'exister. Et on a besoin d'un environnement suffisamment constant dans l'ici et maintenant, pas que dans le passé, pour ne pas plonger dans ces états d'agonie primitive. Alors je pense, pour rejoindre votre écriture, que la peur de la mort, que vous décrivez très bien dans votre livre, de façon très sensible, la peur de la vie que vous décrivez très bien, c'est cette peur de l'inconnu et du vide qui peut être atténuée. Et que ceux que je connais qui n'ont pas peur de la mort, j'en connais certains, ils ont eu un environnement, si vous voulez, plein de vie au départ, une enfance très heureuse, et ils arrivent à, comme vous le dites aussi, un de vos souhaits, je crois, c'est d'être vivant, enfin d'entrer vivant dans la mort. C'était le vœu de Winnicott, entrer vivant dans la mort. Il est entré vivant dans la mort. Il a eu la chance, cet homme, de mourir en regardant un film comique avec sa femme. C'est quand même pas mal. Bon, tout le monde n'a pas cette chance. Mais je crois que c'est le travail d'une vie d'entrer vivant dans la mort. Mais comme on ne meurt pas tous de la même manière, on ne peut se payer ce luxe d'entrer vivant dans la mort que si on a travaillé sur soi très tôt, en fait. Pas forcément en faisant une analyse. Ça peut être une amitié, un pasteur, un ami, un curé, un rabbin, un imam, quelqu'un qui vous écoute, qui est là, un interlocuteur quelconque, pour vous dire « je suis là, je suis avec toi et je partage avec toi ». Et c'est vrai que votre livre m'a touchée, parce que quelque part, là où je vous rejoins, c'est que moi, ce qui me fait peur dans la mort, c'est la séparation. Mais moi, j'ai eu une enfance très chaotique, c'est pour ça que je suis devenue psychanalyste, elle m'a sauvé la vie. Mais j'ai un fond mélancolique que j'ai apprivoisé dans mon analyse. Et je sens en vous, là, dans votre livre, non pas tellement du pessimisme. Quand vous êtes venu me voir, on en a parlé, c'est pas ça. Pas de la dépression, mais peut-être une peur, alors ça, je ne peux pas répondre pour vous, qui serait peut-être liée à la peur du vide et donc à des angoisses, je dirais, de non-intégration, justement, des angoisses premières. Et je pense que c'est toute une vie pour l'apprivoiser. Vous êtes encore trop jeune. Même si vous avez 77 ans, vous n'avez pas encore apprivoisé. Mais j'espère que vous et moi, on va l'apprivoiser. Voilà, moi, je suis en voie d'apprivoisement. Il y a des jours où ça va mieux, mais il y a des jours où j'ai encore la peur quand même. Voilà, alors il faudrait peut-être sur ce donner la parole aux personnes qui sont là pour que ça soit un dialogue, mais ce n'est pas à moi de le faire. Et voilà, je voulais vous féliciter de votre courage et de votre sensibilité en tout cas.
pardon. Comme vous allez répondre, je ne sais pas. Hein.
Manifestement, c'est la prise.
Il faut faire attention à la prise. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions brûlantes? Alors, c'est toujours difficile de commencer les questions, il faut le temps de se chauffer un petit peu. Mais... Oui, vas-y.
Laurent, je voulais dire, quand tu as donné un livre. J'ai peur de souffrir. Des tuyaux, des trucs, des machins, ça me terrorise. Je veux pouvoir choisir le moment où je partirai. Je veux pas de tuyaux. La peur de la mort, et je te l'ai dit, la peur de la mort, bon, j'ai reçu ton livre, puis on en a parlé, hein, mais je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir.
Oui, j'aimerais que beaucoup fassent des remarques et que nous ne monopolisions pas ce moment avec des réponses.
Il y a François alors.
Donc,
alors, alors
c'est un point que j'ai oublié, ce point-là, j'avais mis dans mes notes. Et beaucoup de gens me disent, on n'a pas vraiment peur de la mort, on a peur des souffrances, de souffrir avant la mort. Et cette peur englobe la peur de la mort. L'essentiel de leur peur de la mort, c'est la peur de la souffrance avant la mort. Et là, ça te rejoint au point que ça efface presque leur peur de la mort. Tout est accaparé, et je le comprends très bien, par cette peur de souffrir avant la mort. Alors moi, je suis très égoïste devant la mort. Je n'ai pas du tout peur pour ceux que je vais laisser, pour ceux que je vais quitter. C'est leur affaire, ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai peur de la mort et de la mienne. Alors, voilà. Alors,
il y avait François, sinon... Oui. Non, madame,
tu réponds. Monsieur, d'abord.
François.
Ça serait bien si vous puissiez dire, avant de poser la question, un petit mot sur vous, votre profession, si vous le souhaitez, ou... Parce que la question, on resitue mieux la question.
C'est à moi que vous vous adressez.
Oui, au fond, c'est vrai. Pourquoi pas?
Professeur d'histoire.
Ah, professeur d'histoire, très bien.
François.
Moi, je suis un contemporain de Laurent. On a le même âge. Tout à l'heure, tu as dit que tu croyais à la vie éternelle. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours effrayé. Je n'arrive pas à concevoir ce que c'est que la vie éternelle autrement que, je ne sais pas, l'image d'un rocher qui a traversé les aires géologiques. Ça ne sera jamais mon cas. Alors, dans la Bible, dans les évangiles, on parle de la vie éternelle comme une espérance. Je voudrais savoir ce que tu en penses.
Là, tu me poses vraiment une question, donc je suis obligé d'y répondre. Je trouve que la vie éternelle, en général, n'est pas très enviable. Les descriptions qu'on nous en fait sont fadasses, comme dirait Raphaël Picon, c'est un mot qu'il aimait bien. C'est fadasse, c'est ennuyeux. Vraiment, ça ne fait pas envie, la vie éternelle. Alors, moi, je crois à la vie éternelle parce que je crois en Dieu. Je veux dire que ma réalité profonde est en lui. Et si ce que je suis est en Dieu et non pas d'abord en moi-même... Il y a, de cette manière-là, pour nous, une vie éternelle. Berdiaev disait, ce sera enfin le moment où nous serons vraiment créateurs. Pas l'ennui, pas ne rien faire, mais une incandescence créatrice nous sera accordée en Dieu. Je comprends très bien que ça ne veuille rien dire pour certains d'entre vous.
Ah, Ambroise.
Profession retraitée.
Il est artiste, il est artiste, il est artiste, il y a un Ambroise Monod.
Je voudrais beaucoup merci, madame, parce que je ne peux rien dire de ce que vous m'avez fait entendre, mais je suis sûr que j'ai d'autres choses à apprendre de ce que vous m'avez dit.
On l'entend au fond sans
le dire. Non, c'est pas un problème d'oreille. Pardon, c'est pas un problème d'oreille. Ah, si on m'entend, moi.
Oui.
Ah non, mais vous avez très bien entendu. Et simplement, je voulais vous dire, vous remercier d'avoir dit ce que vous avez dit, et je vais méditer ça. Donc, je peux encore rien en dire. Quant à Laurent Gaillebin, voilà, j'ai lu ces 41 pages autour d'un sujet qui est cosmique, la mort, et je me suis posé une première question dès le titre. J'ai pas peur de ma mort ou j'ai pas peur de la mort? Bon. Moi, j'ai pas peur de la mort. Et je reviens vers la fin à ce que tu dis de la résurrection des morts. Et je me dis, parce que ça rejoint ce qu'on vient d'entendre sur la vie éternelle. On vit au bénéfice de la vie éternelle. Et la mort, c'est l'humus de la vie. Parce que le cadavre, c'est une biodégradation, c'est comme une feuille morte qui fait l'humus, c'est un don de la vie. Et d'ailleurs, les sémites s'enterrent dans un linceul, il n'y a pas le béton des caveaux de famille, il n'y a pas le cercueil, etc. Parce qu'on donne le corps est nourricier, la mort est nourricière. Et elle engendre quoi? La vie. Et ce qui est éternel, c'est la vie. Ce n'est pas la vie éternelle. La vie est éternelle. Et moi, je vis dans la vie éternelle. Et je pense aussi que, d'un point de vue, tu disais que je suis artiste, je pense que d'un point de vue pratique, puisqu'on parlait de praticité, je pense d'un point de vue pratique, je considère que s'intéresser à une action résurrectionnelle dans l'existence, c'est-à-dire de voir ce qui est mort, mortifère, rouillé, cassé, comme quelque chose qui peut renaître, c'est une façon d'aborder cette extraordinaire question qui est de savoir comment je vais mourir.
J'accueille cela, je n'ai pas à répondre. Hein.
Non,
il
n'y
a pas à répondre.
Parce que ces œuvres d'art, il prend des morceaux de ferraille,
oui,
des casseroles, et il fait des œuvres.
Ambroise Monod,
c'est le récupère.
Un des champion du récupère, c'est-à-dire ce qui est destiné à disparaître, à mourir, des vieux objets apparemment insignifiants, il leur donne une vie à travers ses œuvres. Je dis à peu près la vérité. Hein.
Absolument.
Bon.
C'est la définition de la maturité, ça que j'avais noté sur un petit point. Pour vous. Voilà, j'avais noter cette citation de Bergson, vivre c'est vieillir, exister consiste à changer, changer à mûrir, mûrir à se créer indéfiniment soi-même. C'est un peu ce processus de transformation, ce mystère. On n'a pas trop d'une vie, on ne saura jamais, sinon ça ne serait pas un mystère évidemment. Hein. Et puis aussi j'avais pour vous donner un petit peu de joie, je vous avais...
Je suis un homme joyeux plutôt.
Vous êtes très joyeux,
oui.
Mais je voulais vous en donner encore plus. Quand la mort est là, nous sommes déjà partis, vous êtes d'accord? Et tant qu'elle n'est pas là, c'est de la vie que nous devons nous occuper. Mais c'est exactement ce que vous nous dites.
Ah ouais. C'est très beau ça. C'est qui ça?
Et ça c'est Épicure, oui.
Épicure.
Voilà.
Alors je suis épicurien.
Ou même peut-être hédoniste au fond. Oui.
Il y a une question là.
Madame?
Pas vraiment une question.
C'est une remarque.
Moi, je dis que la peur n'évite pas le danger. Donc, si on passe sa vie à avoir peur, j'ai eu longtemps peur. Et puis, un beau jour, je n'ai plus eu peur. Je me suis rendu compte que, en fait, comme on ne peut pas changer le sens de la vie, il faut, à chaque étape de la vie, en faire un challenge nouveau. Alors, pour le moment, j'ai la chance d'être à peu près en bonne santé. Ce n'est pas difficile, mais j'ai traversé des périodes difficiles, des deuils, des choses comme ça. Et je pense que, je ne sais pas comment dire, ça me gênerait d'être tout le temps dans la peur. Je trouve que c'est un peu paralysant, c'est un peu...
Ça évite de...
Alors, je trouve que c'est... On ne choisit pas, je sais, peut-être, j'étais malade, j'étais soignante. Donc j'ai assisté à des morts difficiles, à des choses difficiles. Mais je peux dire que dans, pas tous les cas, parce qu'il y a des cas où c'est pas assez rapide, ou ça, mais les personnes vous apportent énormément dans leur travail, dans leur challenge de fin de vie, dans leur lutte, dans leur attitude. Et je trouve que c'est pas si dégradant que ça.
Ah oui, mais monsieur Laurent Guimbin ne dit pas que ça soit dégradant. Je pense qu'il ose dire j'ai peur et qu'en le disant j'ai peur, il commence à l'apprivoiser sa peur. Parce que la question c'est pas d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, c'est qu'est-ce qu'on en fait de notre peur. Si on reste enlisé dans le mortifère, mais ce n'est pas son cas, et donc dans une peur qui serait la répétition du même, donc être dans la mort avant la mort, comme dit Roger Dadoun, philosophe qui a écrit « Manifeste pour la vieillesse ardente », je vous le conseille. Mais si on s'apprivoise la mort apprivoisée, ça c'est le titre d'un livre de Marie de Henzel, je crois, à ce moment-là, et bien finalement, à partir du moment où on a apprivoisé sa peur, on n'a plus peur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que j'en pense? On m'a posé la question, est-ce que maintenant que tu as écrit ce livre, ça va mieux?
Oui, moi aussi j'ai pensé. Est-ce que vous avez toujours aussi peur de l'avoir écrit?
Aussi bizarre que ça puisse paraître, je dirais que plus je vieillis, moins j'ai peur de la mort. Ce qui est très paradoxal. Voilà, je vous dis ça. Alors, la personne qui a pris la parole là, on partage quelque chose. Nous sommes nés le même jour et la même année.
C'est vrai?
Oui. Alors voilà, je tiens à le dire.
J'étais très étonnée de penser que tu pouvais avoir peur.
Voilà. Alors... C'est une chose sur laquelle Rousseau insiste beaucoup, que c'est absurde, cette obsession d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, et finalement, de toute façon, ça finit. Alors profitons-en tant qu'on peut avant, et ne nous abandonnons pas à nos peurs.
Attends, je voudrais juste dire une petite chose avant d'accueillir les deux questions suivantes, c'est qu'il y a aussi une chose dont vous êtes animé, je vous sens un peu joueur. J'avais senti ce sourire. Vous avez un sourire d'enfant, en fait. Et j'ai beaucoup... Mais c'est vrai qu'en regardant sourire...
Vous me flattez.
Je vois l'enfant en lui. Et c'est vrai, il a ce côté espiègle. Et c'est très, très encourageant, parce que ça m'a rappelé ce Roger Dadoun. Vous l'aurez compris, je l'admire beaucoup, ce Roger Dadoun, qui est un homme âgé déjà, qui parle d'énergie agonique. Et là, il vous rejoint. Parce que pour lui, l'énergie agonique, c'est tout ce qu'il faut déployer d'ardeur, de vaillance, de révolte, le mot est prononcé, on va y revenir, il est dans votre livre, de volonté, de violence, d'énergie. Dieu sait qu'il en faut de l'énergie, la pulsion de vie, c'est mordre dans le gâteau de la vie. Et ago, en grec, c'est le jeu, J-E-U, hein, le jeu et la violence, et le jeu et la vaillance, voilà. Et donc, si vous voulez, je pense que la capacité de jouer, et la capacité de jouer qu'on perd quand on est adulte, aide quelque part à ne pas se prendre au sérieux. Alors, on peut justement avoir apprivoisé cette peur de la mort, si on continue, ça n'empêche pas de se rebeller. Ça n'empêche pas de se rebeller. Mais vous citez Elisabeth Kübler-Ross, et moi aussi, on cite la même chose, qui est une psychologue qui avait accompagné beaucoup de gens à mourir. Vous savez, quand vous citez les étapes du deuil, et vous dites vous-même que la révolte, il y a la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation pour Kübler-Ross. Et vous êtes sceptique, vous, sur l'acceptation. Vous dites, vous en restez à la révolte. Et c'est ce qui vous sauve de la peur de la mort. Et ce qui nous sépare, c'est juste ça. C'est que moi, la révolte, je suis aussi révoltée, remarquez. Mais je suis à me dire, comme madame disait, je suis à me dire que là, on en parle sur une tribune à chaud. Mais j'ai vécu, sans vouloir déballer ma vie privée, une expérience intense fin août, puisque j'ai été opérée d'une grosse opération. Et dans cette grosse opération, j'ai été intubée avec une sonde nasogastrique pendant 8 jours et 8 nuits. Et, oui. Et là, je vais vous dire une chose, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu. Je me disais, t'en parles là, bien maquillée, avec ton brushing sur les tribunes, mais là, t'es dans un lit, tu ne peux plus bouger du tout. Tu dépends, puisque les soignants qui étaient formidables sont autour de toi, et tu es là, mais tu sais que tu vas t'en sortir. Hein, c'est provisoire, la sonde nasogastrique, elle est là, mais tu sais que tu vas t'en sortir. Mais si tu étais dans la même situation, et je me suis projetée dans les gens que j'accompagnais quelquefois, parce que ce n'est pas mon métier de base, mais j'en parle dans la vie à l'épreuve du temps, j'ai été amenée à accompagner en analyse une dame âgée qui s'est retrouvée en soins palliatifs et qui m'a demandé d'aller la voir. Et elle a vécu une expérience de renaissance les trois derniers mois. Elle s'appelait Georgette, enfin, ce n'est pas son vrai nom, mais bon, je l'ai appelée Georgette. Et elle a vécu une expérience de renaissance. Et là, je me suis dit quand même qu'il y avait un sacré travail à faire d'accompagnement pour les personnes qui vont mourir, parce que quand on est intubé avec plus de possibilités de manger et de boire, mais qu'on sait qu'on va mourir, parce qu'on le sait, on le sent, il y a une immense angoisse. Alors la peur de la mort, quand on est sur le terrain à chaud, quoi, qu'on vous dit là, t'es en train de mourir, t'en as plus pour longtemps, et la peur de la mort qu'on peut avoir là, maintenant, alors qu'on est là, c'est une peur théorique en fait. Mais au fond, si on reste vivant jusqu'au bout, si on a la chance d'être accompagné jusqu'au bout, même dans ce moment crucial, et j'y ai vraiment pensé, Dieu sait que c'est important d'avoir des soignants autour de soi, des gens qui vous contiennent, qui vous donnent une colonne vertébrale, qui vous disent « tu n'es pas seul », eh bien là, je pense qu'on peut l'apprivoiser, la mort, à chaud, sur le terrain. On en a peut-être plus peur en théorie qu'en pratique, autrement dit, voyez-vous. Et on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien comment on sera le moment venu. Et moi, je suis très, très sensible à la clinique de la fin de vie, parce que je pense qu'une vie, je pense qu'on peut en comprendre quelque chose, et c'est la prime, quoi, c'est la récompense, hein, au moment du dernier souffle. Et d'ailleurs, on dit souvent que quand on va mourir, on voit toute sa vie défiler. Ceux qui en sont revenus dans des expériences un peu spéciales, voyez-vous, où ils étaient condamnés et tout, ils disent qu'ils voient leur vie défiler quand même. Donc je pense qu'on doit avoir une lueur de vérité. C'est peut-être ça la vérité du sujet, hein, au moment dernier. Et puis pour partager, puisque vous m'avez invité aussi, ce qui nous différencie, j'ose le dire, je ne crois pas en Dieu. Et pourtant, je suis prise d'émotion dans un temple, dans une synagogue, dans une église, juive par mon papa, catholique par ma maman. Je suis donc, et j'ai été élevée sans religion. Et pourtant, je crois comme vous. Je crois que j'ai la même façon de vous de voir les choses. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la forme. C'est autre chose. Peut-être une petite particule dans l'univers, comme vous le disiez, quelque chose qui se transforme sous une autre forme dont on n'a pas idée quand on était dans le ventre de notre mère, quand même. On nous aurait dit qu'on allait vivre tout ça, c'est dingue. C'est abstrait, enfin, c'est complètement fou, la différence entre la vie fœtale et ce qu'on vit là. Eh bien, je pense qu'après... C'est aussi différent, mais on n'en a pas idée. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. De manière naïve, d'ailleurs, j'en ai conscience.
Vous voulez parler dans le micro ?
Il y a Philippe, sinon. Ah, il y a Madame Brun.
Ah, il y avait quelqu'un d'autre ?
Il y a Philippe Brunstein.
J'ai été surprise l'autre jour, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un de mes petits-enfants... Récemment, quand un de mes petits-enfants, un garçon de 20 ans, m'a dit « Mamie, est-ce que tu as peur de mourir ?» Alors sur le moment, je lui dis « Non, je n'ai pas peur, parce que je ne m'attendais pas à cette question. » Et puis je lui ai dit « Juste, écoute, j'ai surtout peur de te laisser. » Voilà.
C'est joli, ça va, oui, bien sûr.
Merci.
Et de vous laisser tous. Mmh. Voilà.
Il y a Félix, sinon. Oui. Oui.
Est-ce que je peux, en tant qu'historien, évoquer la peur de la mort dans les sociétés anciennes chrétiennes ? Le testament, j'en ai lu des dizaines de milliers dans une grande ville qui est Venise au XVe siècle. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces testaments, si on les regarde dans leur masse ? C'est qu'au moment de mourir, évidemment, en préparant sa mort, naturellement, on pense à des choses sinistres qui sont les obsèques, mais on pense surtout à la vie. D'abord, la vie éternelle, et ensuite la vie de ses successeurs. La vie éternelle, ce qui donne une frayeur considérable à beaucoup de gens lorsqu'ils ont la conscience d'avoir trompé, volé, etc. Et on a des exemples magnifiques de registres comptables complètement faux. Et le testateur, au dernier moment de faire son testament, demande au notaire de réparer toutes les injustices qu'il a commises. Et naturellement, il sait très bien que le notaire ne retrouvera jamais les gens. Enfin bon, c'est une manière d'éviter la peur en disant « je vais comparaître devant le tribunal éternel ». Donc il y a cette idée du tribunal. Et donc, ça, c'est la partie, est-ce qu'on arrivera à vivre dans l'éternité et non pas dans l'enfer? Et d'autre part, en ce qui concerne les successeurs, on fait son testament en disant, voilà tout ce qui se passera quand je ne serai plus là. Et on organise la vie de tout le monde. Et on organise toutes les variantes possibles, si les uns meurent avant les autres, etc. Qu'est-ce qu'on fait des legs que l'on fait? Sans en compter, naturellement, tous les legs pieux, charitables, les bonnes personnes, etc. Donc finalement, les testaments nous donnent une vision plutôt optimiste et très vivante, en somme, de ce que représente la mort pour les gens qui l'attendent.
Merci.
Je voudrais vous parler d'une mort à laquelle j'ai assisté presque en direct. Je suis allée voir mon père qui était malade, qui vivait à 1000 km d'ici. On se voyait donc que rarement. Il était hospitalisé. J'étais professeur de mathématiques en Allemagne et je suis professeur d'allemand en France. Je lui avais apporté des choses qu'il aime, des bons chocolats français, et je voulais lui donner. Et il me disait, non, non, pas maintenant. Tu sais, j'ai un long voyage à faire. Il disait pas ça de façon triste, ni joyeuse, mais très concentrée. Oui, il ajoutait les mots, il faut que je fasse attention. Laisse les chocolats, ça peut attendre. Je suis rentrée à la maison et le lendemain matin, on m'a dit qu'il était décédé. Je suis encore
remue,
pardon.
Merci.
Ces mots m'accompagnent toujours.
Oui, je comprends.
Quand on me parle de mort, de peur de la mort...
J'ai encore un long voyage à faire.
J'ai toujours le long voyage devant moi.
Mais j'aurais pris le chocolat quand même, moi. Oui.
C'est beau, c'est très beau.
C'est très beau, oui.
Ah, Michel.
Je veux bien rebondir sur ce qu'a dit monsieur en parlant des testaments. Parce que ce qui, moi, me contrarie... Alors, dans le testament, il y a cette volonté de maîtrise post-mort. Et au fond, moi, ce qui me contrarie beaucoup, 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 c'est de rien maîtriser dans la mort. Lorsque Ambroise parlait, disait que la vie était une suite de processus de transformation, voilà. Dans la vie, j'ai une maîtrise plus ou moins grande, mais j'ai une petite maîtrise quand même des processus de transformation. Or, la mort est un processus de transformation sur lequel je n'ai aucune maîtrise. Et ça, vraiment, ça me chagrine.
Vous êtes poli dans le choix du verbe. Hein, parce que le ton de la voix dit un autre verbe.
Je finis mon intervention en disant, et là je remercie la vieillesse dans cette affaire-là. Parce que la vieillesse est une expérience du début de la démaîtrise.
Ah ben,
c'est-à-dire que je ne maîtrise plus mon ascension dans ma course d'hôpital. Je ne maîtrise plus mon rythme premier, etc. Et quelque part, heureusement qu'il y a la vieillesse, que je ne meurs pas brutalement. C'est-à-dire que je ne perds pas toute maîtrise du jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a des états pour apprivoiser cette exigence de démaîtrise.
Vous auriez à dire quelque chose là-dessus?
Oui, c'est très... Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas si je vais en dire. Mais je crois qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Hein. Dans un sens, le sola gratia, au sens où je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est l'acceptation de la non-maîtrise. Hein. Et je pense qu'une des choses qui me fait peur dans la mort, c'est la non-maîtrise. Vous avez parfaitement raison.
Elle touche un point essentiel.
Vous touchez là un point essentiel, et essentiel pour moi. Mais indirectement, ça pose aussi, excusez-moi, je vais lancer une bombe là maintenant, on ne va pas parler de ça, la question du suicide. Est-ce que choisir de mourir n'est pas une manière de vouloir encore maîtriser sa mort?
Merci. Bon. Et dans les consignes anticipées.
Oui, oui, oui.
Là, il y a une espèce de maîtrise.
Moi, je n'ai laissé aucune consigne pour mon service funèbre, parce que j'estime que le service funèbre appartient aux vivants, et non pas à moi. J'ai laissé des consignes uniquement pour mon corps. Ça, je peux dire, je vais être enterré comme ci ou comme ça. Mais le service funèbre, je ne laisse aucune consigne. J'accepte cette non-maîtrise, ce n'est plus moi, ce sont les vivants qui vont vivre cela comme ils veulent. Bon, je veux parler plus loin, merci. Moi, je trouve que c'est très beau. Très beau.
Oui, bah c'est une dernière espiellerie que tu fais.
Vous voulez dire quelque chose ? Non, mais c'est un point essentiel, là, chez la maîtrise. Et ça rejoint mon « je suis » là où je ne pense pas, parce que ce qui nous fourvoie, c'est qu'on est dans une société, dans un monde où on cherche complètement à maîtriser, encore plus maintenant, dans cette course folle de numérisation de la société, où il y a une mort du sujet et une perte de spiritualité. On est en crise, en pleine crise civilisationnelle actuellement. On vit une crise de civilisation. On vit vraiment quelque chose avec une crise éthique du sujet. Donc si vous voulez, c'est vrai comme vous dites, que c'était ça que je voulais dire, que vous dites très bien aussi, c'est que vieillir, c'est un lâcher la maîtrise. Et que quelque part, il y a des personnes qui arrivent au bout d'une vie, ils ont bien vécu, ils disent maintenant j'ai l'impression que j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux y aller. Et je pense que l'accompagnant peut dire vas-y, tu peux y aller, que quelque part, peut-être qu'on attend, ça peut soulager aussi de recevoir d'un proche l'autorisation, tu peux te lâcher et tu peux te laisser aller quelque part. Ça peut être quelque chose d'important de recevoir un laisser partir. Vous qui avez accompagné des personnes à mourir, je vois que vous acquiescez. Parce que l'agonie, c'est aussi une lutte à la fois de quelqu'un qui s'accroche alors qu'il n'y a plus de force et qu'il faut lâcher la barre et s'en aller, se dire au revoir. Donc il y a un mélange de peur du vide, peur de la séparation et vouloir encore maîtriser les choses, bien sûr. Voilà. Monsieur.
Est-ce que tu dirais... Comme Jean d'Ormesson, dans son dernier livre, je dirais quand même que ma vie fut belle.
Ah oui, c'est beau ça.
C'est un vers d'Aragon,
d'ailleurs. Oui, bien sûr que je dirais ça. Moi, je vois toujours le passé en rose et l'avenir en noir.
Ah bon ? Ah ben voilà.
Et j'ai un frère jumeau, et quand on se raconte les mêmes événements, lui disait, il pleuvait, rappelle-toi, c'était un jour épouvantable. Je dis, mais non, il fait un soleil merveilleux. Donc, j'ai...
Attention, vous dites que vous êtes pessimiste, là.
Oui.
Vous dites que vous voyez l'avenir en noir.
Ah oui, je suis un angoissé perpétuel. Hein.
Ah.
On m'appelle le vieil angoissé, hein, à Évangile et Liberté, et dans ma famille... Je suis, oui, je sais bien qu'on m'appelle le vieil angoissé, bon, mais j'ai aussi été un jeune angoissé.